Hello, Mortimer! Ah, mon cher Black. Désolé d'interrompre vos vacances, Mortimer, mais ça va mal.
Nesta!
Oui, monsieur?
Faites mes bagages.
Bien, monsieur.
Mais capitaine, vous n'allez pas...
Inutile d'insister, je lève l'ancre.
Corne debout! La barre à bâbord, tout! Arrêt à virer!
Alix, laisse ton bouclier, viens!
Vite! Les gladiateurs gagnent sur nous!
Captivant, captivant.
Allô?
Commandant Moran?
Oui?
Mon lieutenant, vous me laissez faire équipe avec Tanguy, s'il vous plaît?
Accordez la verdure,
ah,
vous
merci.
Parlez avec Tanguy.
Captivant, captivant. Le magazine de la bande dessinée.
Voici Raskar Kapak, celui qui déchaîne le feu du ciel.
Captivant, captivant.
Premier, Michel Vaillant, survaillante numéro 10.
Captivant, une émission de Marc Dacier.
Je bois le restant de ma gourde de potion magique. Et on y va.
Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, une émission spéciale réalisée par Christian et entièrement consacrée aux deux héros les plus british de l'histoire de la BD, Bleck et Mortimer. Nous vous proposerons dans quelques minutes de revenir sur le parcours de leur créateur, Edgar Pierre Jacobs, qui était un proche d'Hergé. Puis nous dresserons les portraits de Philippe Mortimer et de Francis Bleck à partir de biographies écrites par Jacobs lui-même. Enfin, nous terminerons notre émission en interrogeant Jean Van Damme et Ted Benoît, deux des repreneurs de la série, ainsi que Hélène Terod, une professeure d'anglais, qui nous traduira et expliquera ces expressions si typiquement anglaises qu'affectionnent Bleck et Mortimer.
Mortimer ! Mortimer ! Mortimer, où êtes-vous ? Je ne sais pas ! On
a Mortimer ! C'est une plaisanterie stupide, où êtes-vous ?
Mais je l'ignore, mon vieux !
On dirait que c'est le pharaon qui parle.
Oui, sûrement un vieux truc des prêtres égyptiens pour faire parler les morts. Je dois être dans la statue. En t'attendant, j'aurais actionné une porte secrète.
Ah, oh, j'ai eu peur. Attendez, vieux, le temps de me faire une torche. Je vais tâcher de retrouver le mécanisme à mon tour.
Oui, je crois que je suis à l'entrée d'un couloir, mais... Le chemin de l'initié, sans doute.
Oh,
Egyptian.
Ce soir, dans Captivant, le magazine de la bande dessinée sur RVE, nous vous proposons une émission entièrement consacrée à Blake et Mortimer. Le créateur de cette série mythique, Edgar Pierre Jacobs, est né à Bruxelles le 30 mars 1904. Il devient d'abord artiste lyrique de 1917 à 1940, notamment à l'Opéra de Lille. Il poursuit parallèlement une carrière de dessinateur, illustration, publicité, catalogue, etc. C'est en 1942 que Jacobs est chargé de continuer dans l'hebdomadaire Bravo, Flash Gordon d'Alex Raymond. L'histoire parvenait en noir et blanc, Jacobs coloriait et couvrait d'un pinceau pudique certains sujets féminins trop dévêtus des planches de Flash Gordon. À la suite de problèmes entre l'Amérique et l'Allemagne, Jacobs doit faire du faux Gordon, 5 planches, pour terminer l'histoire en cours. On demande à Jacobs de créer alors une transposition du célèbre héros américain. Ce sera le Rayon U, édité plus tard en 1974 en album aux éditions Lombard d'Argot. Jacobs débute chez Hergé le 1er janvier 1944. Remarqué en 1943 par Hergé pour ses dons de coloriste, Jacobs se voit confier le remaniement de 7 albums de Tintin, entre autres les 7 boules de cristal et le Temple du Soleil. Puis c'est la création dans le journal Tintin belge en 1946 d'une histoire intitulée « Le secret de l'Espadon ». Ce prodigieux et monumental chef-d'œuvre qui se trouve être le drame inaugural de Blake et Mortimer est la futurisation de la Seconde Guerre mondiale. La prescience stratégique d'Edgar Pierre Jacobs, centrant sa Troisième Guerre mondiale entre le détroit d'Ormuz, verrouillant les puits de pétrole du Golfe Persique, les montagnes de l'Iran et de l'Afghanistan, le Pakistan, le Cachemire et le Tibet, elle paraît aujourd'hui prophétique. Quant aux héros de l'histoire, qui vont, en sauvant le monde de l'Empire jaune, entrer de plein pied dans le panthéon de la bande dessinée mondiale, Blake l'action et Mortimer la science, ils représentent d'abord les chevaliers du bien, de la liberté et de la civilisation. Face à eux, le colonel Ulrich incarne le mal, la traîtrise et la dictature.
Je suis aux ordres de votre majesté.
Colonel, je suis particulièrement mécontent des résultats obtenus par vous dans l'affaire de l'Espadon. Depuis 3 semaines que le professeur Mortimer est votre prisonnier, que savez-vous de plus sur la nature de ses travaux?
Je vous assure, Majesté...
Un peu partout, la résistance s'organise. Et du secret qu'il détient dépend le sort de l'Empire, selon que l'Espadon tombe ou non entre les mains des rebelles. Un tel état de choses est inimaginable, il doit parler. Je vous donne 2 jours pour l'y contraindre. 2 jours! Vous pouvez disposer.
Après l'énorme fresque guerrière que constitue le secret de l'Espadon, Edgar P. Jacobs envoie Mortimer en Égypte pour une quête pacifique et scientifique, la recherche de la chambre d'Horus dans les profondeurs de la Grande Pyramide. Pour l'occasion, l'auteur tente d'éloigner Blake. Les lecteurs désapprouvent et réclament le beau capitaine avec insistance. Jacobs comprend que s'il est vrai que la forte personnalité de Mortimer a fait de son compagnon une sorte de sparring partner, le rôle de Blake dans la saga est nécessaire pour son équilibre. Blake et Mortimer sont complémentaires. Après les 2 tomes du mystère de la Grande Pyramide, Jacobs réalise son chef-d'œuvre, La Marque Jaune. Hallucinant thriller fantastique, cet album entraîne Blake, Mortimer et l'inévitable Ulrich dans les nuits brumeuses de Londres et captive une génération entière de jeunes Belges et Français avant d'entrer dans le top 10 de toute bibliothèque bédéphile digne de ce nom. Après La Marque Jaune, Jacobs publie L'Énigme de l'Atlantide, SOS Météor, Le Piège Diabolique, L'Affaire du Collier et le premier tome des 3 formules du professeur Sato. En 1981, il fait paraître une autobiographie, un opéra de papier, chez Gallimard. Edgar Pierre Jacobs meurt en 1987 sans avoir achevé le dessin du 2e volume des 3 formules du professeur Sato. C'est le dessinateur flamand Bob de Moor qui s'acquittera de cette tâche, d'après le scénario laissé par le créateur de Blake et Mortimer.
L'instant où la nuit tombe,
lorsque la ville disparaît sous le brouillard. On a sans savoir pourquoi le sentiment bizarre que tout peut arriver. Un soir où le hasard m'avait conduit malgré moi dans ces rues silencieuses où la brume dicte sa loi. Elle m'a paru au détour d'un chemin mal éclairé et d'un geste de la main me fit signe d'approcher. Nos vies se sont croisées. Hey, hey, dans les brouillards de Londres. Dans les brouillards de Londres. Sans briser le silence, son corps a épousé le mien. Sans briser le silence jusqu'aux premières lumières du matin. Puis elle m'a demandé pour un instant de fermer les yeux. Alors elle m'a repoussé doucement en murmurant adieu. Elle s'en est retournée. Hey, hey, dans les brouillards de Londres. Chaque soir, je parcours les ruelles de Londres en caressant l'espoir de l'entrevoir dans la pénombre. Si d'aventure le hasard vous mène un soir dans ces rues sombres, peut-être me verrez-vous passer. Hey, 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 à la recherche de son ombre.
Ils sont fous, ces Romains.
Marc Dacier. Edgar Pierre Jacobs avait écrit les biographies du professeur Mortimer et du capitaine Blake. C'est ce qui nous permet ce soir de vous proposer les portraits de ces deux éminents héros de l'Empire britannique. Philip Edgar Angus Mortimer est né à Simia, en Inde, où son père Archibald Mortimer, médecin-major dans l'armée des Indes, tenait garnison. Sa mère, Lady Aileen Hunter of Pitlochry, était réputée dans la colonie anglaise tant pour son esprit primesautier que pour son incontestable talent de pianiste. De sa mère, le professeur tient son tempérament imaginatif, malicieux et plein d'humour. De son père, il a le caractère indépendant et emporté, le respect des traditions et un léger penchant pour le bon whisky pur malt. À 11 ans, Philip Mortimer rentre au pays pour y faire ses études. Élève brillant, il entre à 17 ans à l'université de Glasgow, renommée pour son enseignement scientifique. Très tôt, il s'oriente vers la recherche et plus spécialement vers la physique nucléaire qu'il va parfaire au MIT, Massachusetts Institute of Technology, puis à l'université de Berkeley. Mais son insatiable curiosité supporte mal le cloisonnement de la spécialisation. C'est le chercheur humaniste par excellence, ouvert à toutes les disciplines et à tous les problèmes de son temps. Homme de science doublé d'un homme d'action, jovial, débordant de vie, Mortimer est un solide gaillard rompu à tous les sports virils. Il pratique la boxe, le judo et le karaté, ce qui lui est bien utile lorsqu'il se trouve empêtré dans une de ces extravagantes et dangereuses histoires qu'il semble attirer sur lui comme le paratonnerre attire la foudre. Pour être complet, ajoutons qu'il adore sa pipe, son tabac préféré, le Virginie ou le Old Navy. En récompense des éminents services rendus à l'Empire britannique et à ses dominions, tant sur le plan scientifique que militaire, et aussi pour honorer la bravoure dont il a fait preuve en de nombreuses et périlleuses circonstances, il a plu à Sa Majesté George VI de décerner au professeur Philip Edgar Angus Mortimer la Distinguished Service Order et de lui conférer le titre de baronnet. Mais à son titre réel, Sir Philip Mortimer préfère, tant par modestie naturelle que par sa viscérale aversion des mondanités et autres manifestations tapageuses, son simple titre de professeur.
Ah, c'est cher professeur Mortimer.
Bonsoir, docteur.
Soyez les bienvenus chez moi, cher confrère. J'étais si impatient de vous montrer ma collection des momies. Venez.
Oh, une porte qui m'a l'air solide. Ah,
mon cher, avec une collection comme la mienne, on ne prend jamais assez de précautions. Ma fille la possède un dispositif complet de sécurité. Mais entrez, entrez, passez.
Pardon.
Et vous allez voir, j'ai reconstitué dans mon sous le véritable chambre des morts. Un bichou, venez, c'est par ici.
Nous descendons tout de suite.
Venez, venez, je suis comme un enfant à l'été de vous montrer mes trésors.
Francis Percy Blake est né au Pays de Galles de Aneurin G. Blake, colonel Royal Walsh Fusilier, et de Lady Millicent Roche of Killamay. Issu d'une respectable famille d'hommes de loi et d'officiers, le jeune Francis préfère à la robe le métier des armes. Aussi, dès la fin de ses études à Eton, il entre comme il se doit au Staff College de la Royal Air Force, d'où il sort brillamment avec le grade de capitaine. Il effectue la première partie de sa carrière dans la RAF, puis passe à l'aéronaval comme squadron leader à bord du porte-avions Intrépid. Ses dons particuliers dans l'affaire de l'Espadon ont, tout naturellement, amené Blake à travailler pour les services secrets britanniques et pour le MI5 en particulier, qui apprécie comme il convient son imperturbable sang-froid et son remarquable pouvoir de pénétration. À l'inverse de son ami Mortimer, le créateur de l'Espadon, Francis Blake est le flegme britannique personnifié. Comparé à son ami, il paraît froid et détaché, absolument maître de ses réactions. Mais cette insensibilité apparente n'est due qu'à son horreur atavique de toute manifestation publique de ses sentiments. Les seuls moments où l'on a vu cet homme si calme manquer de trahir une certaine émotion furent ceux où l'incorrigible professeur Mortimer, poussé par son impulsivité habituelle, s'était mis une fois de plus dans quelques fâcheuses situations. Les sports favoris de Blake sont le polo, le golf et le yachting. En raison de sa brillante et valeureuse conduite lors du siège de la base d'Ormuz, le squadron leader Francis Percy Blake a été promu au grade de colonel par Sa Majesté George VI, qui, outre la Distinguished Service Order, lui a conféré le titre de baronnet. Si ses camarades de promotion continuent à l'appeler familièrement capitaine, c'est par plaisanterie, en référence à son lointain ancêtre, le redoutable Mandred, surnommé Captain Blackbird, compagnon du comte de Salisbury, qui anéantit la flotte de Philippe Auguste dans le Zwin en 1213.
Oh. 103.7.
Ce soir, Captivant, le magazine de la BD, vous propose une émission entièrement consacrée à Blake et Mortimer. Dans les années 1990, les éditions d'Argo décident de ressusciter les héros de Edgar P. Jacobs. Pour cela, il faut d'abord trouver le ou les repreneurs idéaux. Tout en sachant que ceux-ci seront attendus au tournant par les fans, les exégètes et les nostalgiques. Le scénariste choisi est Jean Van Hamme, rendu célèbre par ses séries best-sellers Thorgal, 13 et Largo Winch. Le dessinateur sera Ted Benoit, l'un des plus brillants représentants du style de la ligne claire dans les années 80, avec notamment son personnage de Ray Banana. Ils mettront plusieurs années pour réaliser leur premier Blake et Mortimer, qui sort finalement en 1996 et rencontre un énorme succès public. Son titre, l'affaire Francis Blake. À l'époque, Jean Van Hamme et Ted Benoit étaient venus au micro de RVE pour expliquer comment ils avaient été sollicités pour redonner vie à Blake et Mortimer. Jean Van Hamme.
Nous sommes des mercenaires qui avons pris à cœur la cause qu'on nous a demandé de défendre. Donc au départ, vous avez un éditeur d'Argo qui rachète le studio Jacobs, le droit sur les personnages, les éditions Blake et Mortimer, le droit exclusif de diffuser ces personnages, enfin les histoires de ces personnages. Et évidemment, si Dargo a racheté ça, en le payant, c'est quelque part pour faire revivre la série, donc il faut la continuer. Chacun sait que s'il n'y avait pas eu de nouveauté en Blake et Mortimer, lentement, je dirais, la série aurait été oubliée par les nouvelles générations. Donc, rien que sur le plan d'une certaine philosophie de survivance, ce n'est pas mal. Et puis, ils sont adressés d'abord à Ted, qui était le seul, à leurs yeux, au mien aussi d'ailleurs, capable de le reprendre graphiquement. Et moi, je sais pas, ils sont regardés dans la liste de leurs auteurs. Ils ont dit ça. Il est pas trop. Bah oui, avec un V, forcément. Donc, ils ont commencé la liste à l'envers, comme on fait parfois à l'école, pour surprendre tout le monde. Et ils nous ont mis en présence le coup du mariage arrangé. Imaginez les mariages indiens, vous savez, le fiancé ne connaît pas la fiancée. On s'est regardé du coin de l'œil et on s'est demandé si on allait se plaire. Et on a commencé par échanger des petits mots où on avait mis nos premières idées. Ted avait d'ailleurs fait un travail déjà assez important, parce qu'il avait, lui, quand il fait quelques notes, c'est plusieurs pages. Et que j'avais lu, où je trouvais que j'étais entièrement d'accord avec lui. Nous sommes partis comme ça, bras dessus, on a laissé l'éditeur autour de la table, on est partis aller boire un verre, et c'est comme ça que ça a commencé.
Ted Benoît.
C'était pour moi un nouveau départ en bande dessinée. C'est-à-dire que je ne faisais plus de bande dessinée depuis un certain nombre d'années, et tout à coup je me suis rendu compte que je me faisais des illusions sur un éventuel retour à la bande dessinée avec mes propres personnages, et que là c'était en fait la chance que j'avais, un nouveau départ si on veut, d'en refaire.
Pouvons-nous voir Monsieur Macomber?
De la part de qui, messieurs?
Professeur Mortimer et Capitaine Black.
Ah, parfaitement. Monsieur le rédacteur en chef vous attend. Suivez.
Ah, c'est vous, mes amis. Alors?
Rien. Septimus ne sait rien, ni lui, ni personne.
Je n'y comprends rien. La vie de Vernet était limpide comme le cristal. Excusez-moi. Allô?
Monsieur Macomber.
Inquiète à l'appareil.
Un événement intéressant à Londres se produira dans les 24 heures.
Mais qui parle?
Et priez le capitaine Black et le professeur Mortimer de rester en dehors de cette affaire.
Allô? Allô?
En 1997, le directeur éditorial des éditions du Lombard, Yves Sente, écrit une planche d'essai à la Blake et Mortimer dans le but de faire des tests à des assistants potentiels pour Ted Benoit. L'année suivante, il écrit spontanément un synopsis complet intitulé « La machination Voronoff » qu'il présente anonymement, selon la légende, aux éditions d'Argo. André Julliard, le dessinateur des 7 vies de l'épervier et du cahier bleu, est sollicité pour dessiner ce qui va devenir le 14e Blake et Mortimer. Et lorsque Ted Benoit abandonne finalement la série, après la sortie de L'étrange rendez-vous, c'est le dessinateur Stern, créateur d'une série peu connue intitulée Adler, qui est engagé.
Boys and girls, London calling. Now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dance. London calling, see we ain't got no swing, except for the rain and the crunch of thing. The ice age is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going thin. Engines stop on him, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river, to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in. Engines stop running, the wheat is going thick. A nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning.
Captivant.
Mille milliards de mille millions de mille chevaux.
Marc d'acier.
Avant de conclure cette émission sur Blake et Mortimer, j'ai voulu interroger une spécialiste de la langue anglaise à propos de ces expressions typiquement britanniques que Jacobs aimait à mettre dans la bouche de ses héros. Je reçois donc Helen Terrod, professeure d'anglais. Good evening, Helen.
Hi, thank you for inviting me tonight.
You're welcome. Première expression la plus célèbre et emblématique de la série. Écoutons Mortimer la prononcer dans Le mystère de la grande pyramide.
Voilà ces papyrus dont je vous parlais. Celui-ci vient d'être nettoyé par Abdul, je ne l'ai pas encore lu. Mais, tenez, prenez la loupe, je vous laisse le plaisir de le déchiffrer.
Merci, Ahmed. By Jove !
Et qu'y a-t-il ?
Écoutez.
Oui ?
L'immense trésor qu'il convoitait avait disparu, enfoui pour toujours dans la chambre d'Horus.
By Jove, qu'est-ce que cela signifie littéralement ?
By Jove, c'est assez amusant parce qu'en fait, la plupart des interjections qu'on a en anglais dans Blake et Mortimer sont très peu utilisées, voire surannées, voire jamais employées du tout. By Jove, Jove, c'est l'autre terme pour Jupiter, donc ça veut dire littéralement par Jupiter, mais on le traduit par sapristi, crénom d'un chien.
Dans l'affaire Francis Blake, Mortimer découvre les policiers de Scotland Yard en train de fouiller son appartement et s'exclame « Good heavens ». Est-ce que c'est l'équivalent de notre juste ciel, Hélène ?
Oui, c'est juste ciel, bonté divine, mon Dieu. Alors c'est assez amusant parce que moi je vois plutôt des dames bien pensantes dire ça autour d'une tasse de thé. Good heavens, qui serait vraiment le bonté divine, Dieu du ciel, en apprenant que la bonne a été mise enceinte par le fils aîné de la famille. On imagine tout à fait ça. Donc c'est assez amusant d'imaginer ces deux hommes dire bonté divine, Dieu du ciel ou juste ciel. Et c'est tout à fait ça, good heavens. On a aussi d'autres expressions comme for heaven's sake ou goodness sake qui sont en fait les mêmes. Il y a beaucoup de références à Dieu.
Autre expression à caractère religieux que les personnages de la série emploient quelquefois, Goddamn, avec une variante popularisée non seulement par Jacobs, mais aussi par Jean-Michel Charlier dans Blueberry, le mot damned. Écoutons Charquet en abuser dans SOS Météor.
Heureusement que j'ai réussi à attraper cet échelon. Et l'autre s'est sauvé. Damned, damned, damned.
Damned est un adjectif qui signifie littéralement sacré ou fichu. Quel serait son équivalent quand il est employé comme exclamation ?
On a deux expressions très similaires qui sont, comme vous disiez Marc, « Goddam » ou « Damn », qui est donc ce fameux sacré fichu bon sang satané. Alors, ce qui est assez amusant, c'est qu'on a des générations de petits Français qui disaient « Damned », comme on disait « Wanted » quand on regardait un western. En fait, on prononce « Damned », on prononce très, très légèrement le « D » de la fin. Donc, il y a plein d'équivalents. Il y a « Goddam », il y a « Damn », il y a « Damn it », il y a « I don't give a damn », mais qui serait beaucoup plus vulgaire, sachant que Black et Mortimer, quand ils emploient ces expressions anglaises, en fait, il n'y a jamais une once de vulgarité dedans. Alors que par exemple, I don't give a damn, qui serait plus vulgaire, on va juste employer damned ou goddamn, qui est très léger en fait.
Lorsque Blake retrouve Mortimer au début de La Marque Jaune, il lui demande de ses nouvelles par une expression typiquement british.
Ah, voici nos amis.
Hello, Black.
Venez, Mortimer, que je vous présente. Leslie Macomber, rédacteur en chef du Daily Mail.
How do you do?
Professeur Raymond Vernet, président de la British Medical Association.
How do you do?
Docteur Jonathan Septimus, attaché à l'Institut psychiatrique.
How do you do?
Passons dans la salle à manger. Le professeur Mortimer sera des nôtres ce soir.
Hélène, est-ce que de nos jours, les Anglais emploient encore cette phrase « How do you do ?» lorsqu'ils se saluent?
Ça s'emploie encore, je dirais vraiment entre gentlemen, parce que là encore, Black et Mortimer sont de gentlemen. How do you do, en fait, beaucoup de gens confondent. Ça ne veut pas dire comment allez-vous, ça veut dire enchanté. Et quand on vous dit how do you do, il est de bon ton de répondre how do you do, ou de répondre pleased to meet you, ou glad to meet you. Donc c'est une forme de politesse qui est l'équivalent de ravi, enchanté. Sachant que les Américains peuvent employer how do you do dans le sens de how are you, qui est comment allez-vous. Ça reste une expression extrêmement polie. C'est vrai que maintenant le langage a tendance à être plus relâché et on va préférer aux États-Unis des hi, how you doing, ou how are you, ou bien des pleased to meet you, or it's nice to meet you, des choses comme ça un petit peu moins guindées.
Terminons par la phrase britannique par excellence, c'est celle que prononcent solennellement nos héros à la fin de La Marque Jaune après qu'ils aient sauvé Londres.
Et voyez ce que j'ai trouvé pour achever de vous réconforter.
La couronne impériale.
Oui, la couronne impériale, rendue par vous à sa gracieuse majesté.
Dieu sauve la reine.
Dieu sauve la reine!
Dieu sauve la reine, c'est la devise de la Grande-Bretagne?
Oui et non. En fait, God save the Queen, c'est un peu comme longue vie au roi, longue vie à la reine, phrase qu'on dit systématiquement lorsqu'on intronise un souverain. La vraie devise de l'Angleterre, enfin du Royaume-Uni, c'est plutôt on y soit qui mal y pense.
Hélène Terrode, merci.
My pleasure.
C'est la fin de ce numéro spécial de Captivant consacré à Blake et Mortimer. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour l'actualité de la bande dessinée sur RVE et nous nous quittons comme d'habitude avec quelques notes de jazz.
Regardez, colonel ! L'espadon ! Mais tirez-lui dessus, mon sang ! Tirez-lui dessus ! Le deuxième espadon ! Nous sommes perdus.
La victoire est à nous, mes amis. Les espadons pulvérisent tout ce qui se trouve à leur portée. La flotte, l'aviation, l'armée de terre, tout est anéanti. C'est la revanche des hommes libres.
Mm-hmm.